Le magazine des Nations Unies.
Le Conseil de sécurité renouvelle le mandat de la MONUSCO. L'organe exécutif de l'ONU a voté à l'unanimité la résolution 2348 le 31 mars dernier, prorogeant ainsi le mandat de la MONUSCO jusqu'au 31 mars 2018. Les priorités majeures et l'importance de cette résolution, c'est dans cette édition. La communauté mondiale célèbre le 4 avril de chaque année la journée de la lutte contre les mines. Quel bilan faire de cette lutte en RDC? Réponse avec la chargée de communication du service de lutte anti-mines des Nations Unies, UNMAS. Ce sera dans le décryptage. Enfin, le Kasaï s'enlise dans une crise humanitaire. Près d'1,8 million de personnes affectées, 400 morts et 434 000 déplacés internes. Le Bureau de coordination des affaires humanitaires OCHA mobilise et lance un plaidoyer en faveur des populations civiles. Le chargé de communication de OCHA est notre invité.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour à tous, je suis Tina Salama et je vous souhaite la bienvenue à cette édition de UN Mag. D'abord cette nouvelle, le Conseil de sécurité des Nations Unies proroge le mandat de la MONUSCO jusqu'au 31 mars 2018. Ceci en faveur de sa résolution 2348, votée à l'unanimité le vendredi 31 mars dernier. Ce mandat est centré sur deux priorités majeures, la protection des civils et l'appui à la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre 2016. Par ailleurs, la MONUSCO est chargée de neutraliser les groupes armés au moyen de la brigade d'intervention et avec l'appui des autorités de la RDC. Je vous propose un extrait de l'intervention de l'ambassadeur de France aux Nations Unies, François Delattre, expliquant l'importance de la résolution.
Premièrement, la RDC est dans une situation institutionnelle inédite. Le mandat de l'ensemble des institutions électives du pays a expiré. La RDC est entrée dans une phase de transition sur la base de l'accord politique signé le 31 décembre 2016 jusqu'aux élections prévues d'ici la fin de cette année. Cet accord, obtenu grâce aux efforts remarquables de la CENCO, constitue la seule feuille de route crédible pour une sortie de crise, mais les retards dans sa mise en œuvre sont très préoccupant. Il est essentiel pour la stabilité et l'avenir de la RDC que l'accord soit mis en œuvre dans les plus brefs délais et que les élections se tiennent. Ensuite, la RDC est confrontée à une situation sécuritaire inquiétante avec la persistance de groupes armés à l'est du pays et l'apparition de nouveaux foyers de violence, au Kasaï notamment, où de nombreux Congolais sont morts depuis un an et où deux experts de l'ONU ont récemment trouvé la mort dans des circonstances dramatique. La troisième raison pour laquelle cette résolution est particulièrement importante, c'est qu'elle adapte la composition de la MONUSCO de manière cohérente et réfléchie pour la mettre en mesure de mieux répondre aux défis qui se posent à ce pays.
La MONUSCO veut justement passer à la vitesse supérieure parce qu'elle va optimiser ses forces pour plus d'efficacité et de performance sur le terrain dans le cadre de son mandat de protection des civils, tant au Kasaï que dans l'est du pays. Selon le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU chargé des opérations, des progrès dans ce sens sont attendus d'ici 6 mois. David Gressley intervenait ce mercredi à partir de Goma comme invité de la conférence hebdomadaire des Nations Unies. Ses propos sont recueillis par Jean-Pierre Lally, ICOCO.
Ça demande à nous en tant que mission et aussi nos collègues à New York de vraiment optimiser cette force ici pour que ce soit, et c'est dans la résolution. Donc c'est une obligation de notre part de voir comment on peut optimiser cette force avec une augmentation des forces spécialisées qui sont adaptées à la situation, avec plus de mobilité, avec la capacité d'un déploiement rapide. Ça c'est important pour les situations qu'on voit maintenant dans les Kasaï, et on doit faire beaucoup de progrès d'ici 6 mois. Ce qui est important à noter est qu'on doit changer la qualité et la performance de notre force. C'est-à-dire la qualité est plus importante que le nombre des effectifs sur le terrain. Pour vous qu'on puisse augmenter la qualité et la performance de notre force. Et je crois que cette optimisation va aussi aider dans la lutte contre les groupes armés.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
La lutte anti-mine est célébrée le 4 avril de chaque année, ce qui a été le cas en République démocratique du Congo. Chargée de communication du service de la lutte anti-mine des Nations Unies UNMAS RDC, Lorraine Georgis répond aux questions d'Honoré Missenga Kalala sur cette journée, mais nous donne également le bilan de cette lutte en République démocratique du Congo. Suivez plutôt cet entretien.
Lorraine Georgis, bonjour.
Bonjour.
La journée internationale de la lutte anti-mine est célébrée le 4 avril. Cette année a été placée sous le thème « Un environnement sans danger, la communauté protégée ». Quel sens donner à ce thème dans le contexte de la RDC ?
Alors, nous avons choisi ce thème en RDC pour la deuxième année consécutive, car il représente l'objectif que nous souhaitons atteindre au travers de nos activités. Donc en effet, UNMAS, le service de la lutte anti-mine des Nations Unies, cherche à créer un environnement sans danger et protéger les communautés. Et cela se fait notamment en retirant toutes les mines et restes explosifs de guerre et en sensibilisant les communautés afin qu'elles ne se mettent pas en situation de danger et qu'elles puissent signaler tout engin suspicieux.
Alors, par rapport à cette journée, quelles activités UNMAS a organisées à ce propos ?
Alors, il y a beaucoup d'événements organisés. C'est plus une semaine internationale plutôt qu'une journée internationale. Donc cette journée fut célébrée le 2 avril à Goma, le 4 avril à Bukavu et Entebbe en Ouganda et le 6 avril à Kinshasa. Et c'est au travers de nombreuses activités rassemblant la communauté locale et le personnel de la MONUSCO, des agences ONU et des ONG internationales et nationales. Alors un peu plus de précision, par exemple à Goma, une course relais en Tchoukoudou fut organisée dans le centre-ville afin d'honorer la culture gomatracienne et sensibiliser les participants au risque des mines et restes explosifs de guerre par le biais de messages clés qui étaient positionnés tout au long du parcours. Et la course fut aussi clôturée par un concert ouvert au public de David Doubé, qui est l'auteur des chansons de sensibilisation sur les risques des armes et des engins explosifs. À Bukavu, en revanche, nous avons organisé une démonstration de déminage, il y avait des stands d'information, une pièce de théâtre, un concert. Tout cela fut organisé avec la présence des autorités régionales et de la communauté internationale. Du côté de Kinshasa, l'ambassade du Japon, le centre congolais de la lutte anti-mine, UNICEF et UNMAS ont organisé une petite cérémonie avec les opérateurs de la lutte anti-mine ainsi que les représentants du gouvernement congolais et de la communauté internationale. Cet événement, qui incluait une exposition photo représentant 15 ans de lutte anti-mine en RDC, a aussi permis aux participants de faire un bilan sur la situation du pays et d'aborder ensemble les progrès et les défis de la lutte anti-mine en RDC. Cette exposition photo sera aussi itinérante et présentée dans l'est du pays, plus tard.
Oui, on va peut-être revenir au bilan, mais vos activités, on a l'impression, Lorraine et Georgis, qu'elles sont plus concentrées dans l'est. Est-ce qu'il y a une raison particulière à cela ?
Oui, en effet, il y a une raison. On prioritise les activités dans les zones les plus proches de nos opérations de nettoyage et de sensibilisation, et avec les communautés cibles. La présence de nos bureaux à l'est du pays atteste du fait que la contamination explosive est plus forte dans cette zone, due au conflit armé continu. Il reste pour cela important de sensibiliser les communautés. Comme déjà mentionné, on a aussi des événements liés au progrès de la lutte anti-mine à Kinshasa avec le gouvernement de la RDC et la communauté internationale, ainsi qu'à New York avec les missions permanentes du gouvernement de la RDC et du Japon. Ces événements permettent de faire un bilan du progrès de 15 ans de lutte anti-mine et de faire le plaidoyer pour le nettoyage des mines avant la date butoir de janvier 2021.
Cette journée marque aussi les 15 ans de lutte anti-mine en RDC. Un petit bilan.
Avec plaisir. Donc il faut commencer par le fait que la RDC soit devenue signataire de la Convention sur l'interdiction des mines antipersonnelles et la Convention relative aux droits des personnes handicapées, ainsi que l'adoption de la loi nationale pour la mise en œuvre du traité d'Ottawa. Depuis le début des activités de la lutte anti-mine, donc en 2002, la RDC progresse aussi vers la conformité de la Convention sur l'interdiction des mines antipersonnelles au travers le nettoyage de toutes les zones suspectées et dangereuses restantes, telles qu'identifiées par l'enquête nationale sur la contamination par mine et l'enquête générale. La RDC a aussi détruit tous ses stocks connus de mines antipersonnelles et a identifié des stocks abandonnés. On va essayer de détruire cela dans les plus brefs délais tels que demandé par la Convention. Et puis, conformément à la résolution 2098 du Conseil de sécurité, UNMAS a aussi achevé en janvier 2016 le transfert des compétences au Centre congolais de lutte anti-mine pour la coordination de toutes les activités de déminage humanitaire. Mais j'aimerais vraiment profiter de cette question pour souligner l'importance du rôle du gouvernement et de la communauté internationale, puisqu'en effet, afin de libérer la RDC de la menace des mines connues et des restes explosifs de guerre, il est vraiment crucial que le gouvernement continue son avancée vers ses engagements internationaux, tels que la Convention sur l'interdiction des mines antipersonnelles, mais aussi son appropriation nationale et la coordination efficace des activités humanitaires de lutte anti-mine sur l'ensemble du pays. De même, l'appui de la communauté internationale reste toujours très important pour avancer vers les tâches de nettoyage et de sensibilisation.
Est-ce qu'on peut avoir une idée sur le nombre de victimes des mines en RDC?
Le nombre de victimes des mines en RDC depuis 2014 est de plus de 100. Ça représente à peu près 75% des enfants, donc les enfants sont les plus touchés.
La RDC libre des engins explosifs avant janvier 2021, est-ce que vous êtes optimiste par rapport à cette échéance?
Il faut tout d'abord clarifier la différence entre les mines antipersonnelles et les restes explosifs de guerre. La Convention d'Ottawa traite exclusivement des mines antipersonnelles. Donc suite à l'enquête nationale de contamination par mine, 156 zones suspectées dangereuses ont été identifiées et enregistrées en RDC. À ce jour, comme je l'ai déjà dit, 65% de ces zones ont été dépolluées et libérées. Il en reste donc 55. Donc nous sommes en effet optimistes par rapport à cette échéance. Grâce au soutien généreux du peuple japonais, le sud Kivu a déjà été déclaré libre des mines terrestres connues l'année passée, et les provinces de Tchopo et Maniema le seront aussi très prochainement. Donc si ce rythme de dépollution est maintenu, la RDC devrait pouvoir être libre des mines terrestres connues, et donc conforme à la Convention d'Ottawa avant la date butoir du 1er janvier 2021.
Donc vous allez toujours compter sur le gouvernement japonais ?
En effet, on espère. Le budget est plus restreint, mais ça reste quand même notre ailleurs de fond principal. Par contre, si je peux me permettre, la contamination par les explosifs de guerre est encore un souci. Et la contamination affecte l'ensemble du pays et continue là où les conflits armés sont en cours. Donc dans ce domaine, pour réduire l'impact des engins explosifs, on a mis en place des lignes vertes qui sensibilisent la population et qui les aident à signaler les engins explosifs de guerre, tels que les grenades, les roquettes, les RPG, etc. Donc pour cela, il est très important de se rappeler que si vous trouvez un engin suspicieux, surtout, il faut s'arrêter, ne jamais toucher et informer un membre de votre communauté. Et donc appeler ces lignes vertes qui ont été mises en place par UNMAS, afin que nos équipes puissent intervenir et vous protéger. Donc on a une ligne verte RTL et une ligne verte Vodacom. Donc RTL, plus 243 999 04 10 46 et Vodacom, plus 243 82 038 38 32.
Merci d'avoir répondu à l'appel de Radio Capi.
Merci à vous.
En plus bref, un d'abord cap sur New York, où le nouveau chef des opérations de maintien de la paix de l'ONU, le diplomate français Jean-Pierre Lacroix, a pris ses fonctions cette semaine. Dans son premier message, M. Lacroix a notamment pris l'engagement de prendre les mesures les plus fermes contre ceux qui, au sein des missions des Nations Unies, se livreraient aux actes d'exploitation et d'abus sexuels. Des actes qui, a-t-il laissé entendre, ont terni ces dernières années le travail remarquable réalisé par l'immense majorité du personnel du maintien de la paix. Rappelons que Jean-Pierre Lacroix a remplacé à ce poste son compatriote Hervé Latsou. Une nouvelle de la FAO, plus de 3500 paysans des provinces du Kwilu et du Kwango sensibilisés à l'école des cultures maraîchères et vivrières. Nous sommes là dans le cadre du programme Champs École Paysans. Au cours des journées portes ouvertes organisées par la FAO du 28 au 30 mars à Kikwit et à Bandounouville, ces paysans ont eu l'occasion d'échanger sur les notions acquises sur ces cultures et la pratique qu'ils en font dans leurs communautés respectives. Enfin, deux projets de UNPOL, la police de la MONUSCO. Le premier est un projet de construction d'un point de captage d'eau et d'une fontaine d'eau potable au bénéfice de la population du quartier Nzuma dans la commune de Rwenzori. Nous sommes là à Beni, dans la province du Nord Kivu. Un projet financé à hauteur de 8 630 $ américains. Et le deuxième projet concerne plutôt le lancement à Kalemi dans le Tanganyika d'une stratégie opérationnelle intégrée de lutte contre l'insécurité. Stratégie qui consiste notamment en la mise à la disposition de la population des numéros verts.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Dans une infographie publiée le 3 avril dernier, OCHA estime que la situation est très alarmante et préoccupante dans le Kasaï, avec près d'1 080 000 personnes affectées par le conflit. Quelles sont les zones les plus touchées? Comment s'organise la réponse humanitaire? Et surtout, quelle stratégie de plaidoyer en faveur des personnes affectées? Les réponses dans cet entretien que Jean-Pierre Elali Coco a eu avec Yvon et Doumont, chargés de communication et de plaidoyer à OCHA. Suivez.
Yvan Edoumont, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre.
Le Bureau de coordination des affaires humanitaires, OCHA, estime que la situation humanitaire dans le Kasaï est très alarmante depuis le mois d'août dernier, avec plus de 1 074 000 personnes affectées par la crise ou même le conflit. Alors Yvan, quelles sont les zones les plus touchées par cette crise ?
Alors, c'est une crise qui a commencé dans le Kasaï central en août dernier et au fil des semaines, elle s'est étendue. Aujourd'hui, nous parlons d'une situation humanitaire alarmante, inquiétante, qui touche plus de 1,7 million de personnes, y compris 400 000 personnes déplacées et évidemment toutes les autres conséquences humanitaires qui sont liées à ces violences-là, c'est-à-dire en termes d'enfants qui ne sont plus en mesure d'aller à l'école, en termes de ménages, de familles qui ont perdu soit leur champ, soit leurs moyens de subsistance. Donc c'est une situation qui est assez inquiétante et aujourd'hui il y a une mobilisation des acteurs humanitaires au Congo, tant du côté des Nations Unies que des ONG pour y répondre.
On va y arriver, mais quelles sont les zones les plus touchées lorsqu'on voit toute la grande région du Kasaï? Est-ce qu'il y a des zones qui sont touchées particulièrement par cette crise humanitaire?
Les zones touchées, ce sont disons les trois Kasaï, donc le Kasaï central et le Kasaï oriental. Il y a plusieurs villes et localités qu'on peut citer, mais ce serait peut-être donner une fausse image puisqu'aujourd'hui les violences sont très fluides, les gens se déplacent, les violences entre guillemets se déplacent aussi, mais on peut dire que ce sont essentiellement ces trois provinces du Kasaï, même si dans notre rapport on parlait du fait aussi que les provinces voisines du Sankuru et de l'Omami avaient aussi subi des conséquences de ces violences.
Vous parlez des déplacements, il y a plus de 430 000 déplacés internes, dont la moitié c'est dans les Kasaï, vous l'avez dit. Quels sont alors leurs besoins humanitaires les plus urgents pour ces populations des déplacés internes?
Les besoins les plus urgents, c'est vraiment des besoins primaires, des besoins qui permettent aux gens de rester en vie. Donc on parle de la nourriture, on parle de l'accès à l'eau, on parle des médicaments. Nous, au Tchad, nous avons envoyé une équipe sur le terrain. Le constat est que ces violences-là ont perturbé les vies de ces populations. Et aujourd'hui, elles ont besoin du minimum juste pour rester en vie, en attendant qu'elles retournent chez elles dans le lieu d'habitation d'origine.
Oui, la situation est préoccupante. À l'heure actuelle, comment les ONG et agences humanitaires s'organisent-elles pour apporter la réponse humanitaire?
Mais aujourd'hui, il faut dire que cette crise est une nouvelle crise pour nous. Elle vient s'ajouter aux autres défis que nous avions déjà en parlant des Kivu ou du Tanganyika ou de l'Ituri. Aujourd'hui, comme on dit un peu dans le jargon anglophone humanitaire, le Kasaï est devenu un hotspot, un point chaud. Une situation qui, il y a à peine un an, n'était pas un théâtre d'opération humanitaire. Aujourd'hui, le Kasaï est un théâtre d'opération humanitaire et beaucoup d'efforts sont en train d'être faits pour rediriger en quelque sorte nos moyens, nos ressources financières, nos ressources humaines, notre énergie sur cette crise. Donc ça nécessite une certaine adaptation vu que le focus notre travail ces derniers temps n'était pas cette zone, évidemment, puisqu'il n'y avait pas de crise. Et donc aujourd'hui, les mobilisations des acteurs des ONG nationales, des ONG internationales, des agences des Nations Unies, afin d'apporter tout ce qui est nécessaire pour répondre aux besoins de ces populations.
Est-ce que jusque-là, on est au niveau de plaidoyer tout simplement, parce que ça urge, vous l'avez dit, la situation est préoccupante. Est-ce qu'il y a des premières actions qui sont menées en ce qui concerne justement la réponse humanitaire? Est-ce qu'il y a des premiers engagements des ONG humanitaires et même des agences?
Oui, il y a des engagements. Alors, il y a toute une liste d'actions, d'activités qui sont en cours ou qui ont même déjà été menées.
Concrètement, c'est quoi?
Mais concrètement, c'est dans tous les domaines. Je pense qu'aujourd'hui, on parle d'apporter de la nourriture, on parle des financements qui ont été dégagés des agences comme l'UNICEF, du Fonds humanitaire de la RDC. Aussi, 4 millions ont également été dégagés aussi par le Fonds central de réponse qui est basé à New York. Tous ces montants-là qui ne représentent pas la totalité des besoins permettent aujourd'hui à chacun d'évoluer dans le domaine dans lequel il est expert. Donc, comme je disais tantôt, un appui en médicaments à travers des ONG. Il y a des agences qui aujourd'hui font la protection des enfants. D'autres acteurs comme le PAM avec la nourriture. Il est vrai aussi qu'il faut dire qu'aujourd'hui, le contexte de la crise même et les problèmes d'accès en termes de défis logistiques font qu'aujourd'hui, on n'est pas en mesure pour l'instant de déployer une assistance de grande envergure. Mais petit à petit, cela se fait afin de s'assurer que tous ceux qui sont dans le besoin reçoivent l'aide dont ils ont besoin.
Dans des situations pareilles, OCHA est au centre de toutes les actions. Est-ce que OCHA a prévu des stratégies pour pour un plaidoyer beaucoup plus direct vis-à-vis des donateurs internationaux qui peuvent apporter de l'aide d'urgence au niveau du Kasaï.
Effectivement, c'est en cours. Je citais tantôt un montant de 4 millions de dollars américains qui a été alloué il y a quelques semaines par le fonds d'urgence des Nations Unies qui est basé à New York.
Le fonds est disponible déjà?
Les fonds sont disponibles. Les acteurs opérationnels qui ont les capacités d'y répondre vont avoir accès à cet argent. Donc, je parle de 4 millions du fonds. Le fonds humanitaire de la RDC, qui est en fait un pool de financement dans lequel les donateurs présents dans le Congo ont aussi mis plus d'un million de dollars. Il y a d'autres financements qui vont évidemment venir. Donc, effectivement, nous, au Tchad, nous faisons notre plaidoyer, comme on l'a toujours fait, afin que, tant au niveau national qu'au niveau international, les ressources financières suffisantes nous soient louées afin que nous puissions répondre de façon suffisante à la crise. Parce que, comme je disais tantôt encore, l'est du pays est la zone d'opération. Mais ces dernières années, évidemment, ça a été concentré sur les Kivu, sur l'Ituri. Aujourd'hui, le Tanganyika et le Kasaï se positionnent comme des nouveaux théâtres d'opération et on a besoin de moyens financiers pour pouvoir mieux y répondre.
Voilà, vu l'ampleur de la situation de la crise dans le Kasaï, à combien est-ce que OCHA estime le besoin chiffré?
Alors, les besoins sont répartis en termes de besoins immédiats et de besoins un peu plus long terme. Alors, on n'a pas envie de forcément avancer des chiffres maintenant parce que c'est un travail continu, mais il faut déjà estimer à plusieurs millions.
Et Yvan Edoumou, vous êtes chargé des communications et des plaidoyers à OCHA. Radio Capi vous remercie.
Merci Jean-Pierre.
Rendons-nous à présent à Boujima où a séjourné cette semaine le directeur du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. La mission de José Maria Aranaz était de 3 jours et avait pour objectif d'évaluer la situation générale des droits de l'homme et de faire le suivi des enquêtes en rapport avec cette situation. À l'issue de ce séjour, mercredi dernier, le directeur du BCNUDH avait livré ses impressions au micro de Chris Moukand.
J'ai constaté que il y a beaucoup de défis en matière des droits de l'homme. Il y a des problèmes qui sont des relations avec l'espace démocratique. Aussi, on a parlé des suivis des enquêtes et des violations des droits de l'homme pour les cas graves commis dans le cadre des affrontements entre les forces de sécurité et la milice de Kabinel Sapu. On a parlé aussi des efforts pour prévenir l'expansion du conflit avec la milice de Kabinin-Sapu à cette province. Il y a les recommandations de comment on peut commencer à faciliter l'accès au débat politique, généraliser les manifestations pacifiques de tout, la question des enquêtes par le terrain militaire à ce qui s'est passé ici. Mais surtout, j'ai réitéré à tous notre partenaire et notre volonté à continuer à accompagner la population pour une application effective de tous les droits humains pour tout.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
La question de ce dimanche a trait à l'appui de la MONUSCO aux institutions de la RDC et à l'accord du 31 décembre. Vous suivrez également la réponse de Charles-Antoine Bambara, porte-parole ad intérim de la MONUSCO, complétée par David Gressley, adjoint du représentant spécial en charge des opérations.
Et Sylvie Fortuné Mboula pour Antenna. La nouvelle résolution 2348 du Conseil de sécurité de l'ONU mandate la MONUSCO d'appuyer les institutions de la République pour la mise en œuvre rapide de l'accord du 31 décembre 2016. C'est l'une des priorités stratégiques. Les discussions directes au centre interdiocésain n'ont pas abouti. Le chef a consulté au Palais de la Nation et se prononce aujourd'hui. Le rassemblement Félix Tshisekedi, Pierre Lumbi n'était pas au Palais de la Nation. Bon nombre d'observateurs pensent que la crise est loin d'être terminée. La MONUSCO qui a reçu ses mandats va faire quoi exactement? Parce qu'il faut aussi précéder les événements. Qu'est-ce que vous allez faire? Parce que les gens pensent que nous sommes loin d'en finir avec la crise. Merci.
Merci. Une fois de plus, comme je disais, M. Gressley qui était à New York a suivi bien sûr les discussions autour de l'adoption de ce nouveau mandat. Je crois que ce qui nous est demandé est assez clair dans cette résolution. D'abord, appuyer la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre. Et ça, c'est vraiment une priorité pour la MONUSCO. Nous allons essayer de voir comment accompagner donc cette résolution qui, j'allais dire, ce volet de la résolution, de la nouvelle résolution, de façon concrète ici. Mais Monsieur Gressley, peut-être que vous avez des éléments plus précis de comment la MONUSCO va accompagner effectivement la mise en œuvre de cet accord du 31 décembre, tel que demandé par la nouvelle résolution, la 2348.
Résolution qui a donné deux tâches prioritaires. D'abord, c'était de continuer avec nos efforts dans la protection des civils. Et le deuxième, comme c'était cité par le journaliste, c'était l'appui au processus de 31 décembre, l'accord de 31 décembre et le processus électoral.
Magazine des Nations Unies. Portrait du jour.
Bonjour, je suis Emmanuel Nonguera Kan, marié et père de famille. J'ai fait mes études primaires à l'école primaire Yuki Onatra, dans le Maïndombe, ex-province de Bandundu. Et après, je suis allé au collège Saint-Pierre pour les études secondaires, dans la mission catholique IPAM, dans les diocèses d'Idiofa, toujours dans l'ex-province de Bandundu, actuellement Kwilu. Quand j'ai eu mon diplôme d'état en section commerciale et administrative, j'étais inscrit à la faculté de droit à l'université de Lubumbashi, où j'avais eu mon diplôme de licencié en droit, option droit privé judiciaire. Et à la longue, j'avais senti la nécessité de faire un master pour approfondir mes connaissances. Et là, je suis titulaire d'un master en droit international des droits fondamentaux avec focus protection de l'enfant. Je travaille actuellement à la section protection de l'enfant de la MONUSCO comme officier national des protections de l'enfant. Au début, j'avais comme tâche spéciale point focal justice juvénile et à la longue, je deviendrai legal advisor, c'est-à-dire conseiller juridique pour la section protection de l'enfant et partant pour toute la mission. Vous savez, la section protection de l'enfant veille à la protection de l'enfant en situation de conflit armé. Et comme en situation de conflit armé, les conseils de sécurité a identifié 6 graves violations des droits de l'enfant, notamment le meurtre et mutilation, recrutement et utilisation, attaque contre les écoles et les hôpitaux, refus d'accès à l'assistance humanitaire, l'enlèvement, les viols et violences sexuelles. Je protège les enfants pour qu'ils ne deviennent pas victimes de ces violations graves de leurs droits. Et lorsque ces violations sont commises, je veille à ce que les enfants soient rétablis dans leurs droits et que les auteurs puissent répondre de leurs actes devant les instances compétentes. Et en même temps, pour veiller sur les 6 graves violations des droits de l'enfant, le gouvernement congolais et l'ONU ont signé un plan d'action pour lutter contre le recrutement et les autres violations graves des droits de l'enfant, bien entendu. Et ce plan d'action est mis en œuvre par un groupe de travail technique conjoint qui est piloté par le ministère de la Défense. Et moi, je suis le secrétaire de ce groupe. C'est moi qui prépare les réunions, les comptes rendus, qui propose les sujets pour la tenue des réunions, ainsi de suite. Avant de venir à la MONUSCO, j'ai presté comme avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa Gombe pendant environ 8 ans. Et en même temps, j'étais vice-président d'INONG, les défenses des droits de l'homme, dénommé Conseil national des droits de l'homme en islam. Et plus tard, je deviendrai le président de cette organisation. Et tout en étant dans cette organisation, j'ai beaucoup travaillé pour la défense des droits de l'homme parce que j'ai soumetté des communications, comme on dit, à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, au Comité des droits de l'homme. Pendant mon temps libre, je reste avec les amis, j'aime la lecture, je fais les sports, notamment le footing, je fais un peu le vélo et j'aime la musique, la rumba congolaise, surtout comme je suis congolais. Comme perspective d'avenir, j'ai toujours pensé défendre mes semblables devant les instances internationales, comme la Cour pénale internationale, le Tribunal pénal international pour le Rwanda, ou travailler comme expert dans une instance internationale pour traiter des cas de violation des droits de l'homme. Voilà tout, merci.
Magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Kapi.
À Avocat Alpin, mesdames et messieurs, ceci pourrait vous intéresser. Notez que le 11 avril, c'est la journée mondiale de la maladie de Parkinson. Et le 16 avril, c'est la journée mondiale de la voix. Et voilà, chers auditeurs, c'est déjà la fin de cette édition de UN Mag qui vous a été présentée par Tina Salama, à la mise en onde Jean-Noël Mokondo, à la coordination et au reportage Jean-Pierre et Lali Coco, au reportage également Honoré Missenga Kalala. Merci à Martin Sebujangwe qui l'a supervisé. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Si vous voulez retrouver ce magazine, vous n'avez qu'à aller visiter notre site internet. Vous tapez le www.radiocalpi.net. C'est un réel plaisir pour toute l'équipe de vous avoir. À très bientôt. Ciao.